Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Récré. Nous sommes Adèle, Alice, Cerise, Elia, Eric, Gabriel, Hermione et Romane.
Pendant les vacances de Pâques, nous avons réalisé deux émissions avec Radio PFM et la médiathèque du pôle culturel Saint-Va.
Au sommaire de cette émission, des micro-trottoirs sur la poésie et les rats.
La deuxième partie de notre interview avec Anne Crahé, illustratrice jeunesse. Et puis bien sûr, des chroniques et des chansons.
On commence avec une première chronique sur les calculs réalisés par Gabriel.
Les calculs. J'aime les calculs. Je fais des additions, des soustractions et des multiplications. À l'école, j'en fais depuis l'année dernière. Mes nombres préférés sont 16, 20, 23, 32, 47, 62, 70.
On écoute maintenant un micro-trottoir réalisé par Cerise et Gabriel sur la poésie. Cerise, on te retrouve juste après pour une chronique.
Aimez-vous la poésie ?
Ah, j'aime beaucoup la poésie. J'aimerais faire des poèmes.
Tout à fait.
Oui.
Oui, j'aime beaucoup la poésie.
Oui, j'aime bien.
Oui, beaucoup.
Je connais pas trop la poésie, mais j'aime bien.
En avez-vous déjà écrit ?
Oui, j'en ai déjà écrit, mais c'était pour des devoirs à l'école.
Moi, j'ai pas écrit des poèmes, mais j'ai appris par cœur beaucoup de poèmes.
Non, j'ai pas ce talent. Je préfère le lire que l'écrire. Je pense que ce serait mieux.
Je ne serais pas capable.
Quand j'étais petite
et que je savais pas encore lire, on devait, dans les fêtes de la famille, on devait réciter des fables de La Fontaine, debout sur la table. Et après, j'ai appris à l'école beaucoup de poèmes.
Quels sont leurs titres ?
Ils n'ont pas de titre, il s'agit de petits poèmes japonais qu'on appelle haïkus. Et les haïkus n'ont jamais de titre.
J'avais pas donné de titre à mes poésies.
J'avais écrit une poésie et ça s'appelait La Sorcière.
Quelle est votre poésie préférée ?
Là, ça me demande une petite réflexion. Le loup et l'agneau.
Mon poète préféré, c'est Guillaume Apollinaire et Ronsard.
Victor Hugo.
Je sais pas trop quelle poésie je préfère, mais j'aime bien du Bellay.
À la poésie japonaise.
Du coup, je suis pas forcément le meilleur choix. Je sais plus si c'est le titre exact, mais je dirais, comme j'en connais peu, « Mignonne, allons voir si la rose ».
Aimez-vous illustrer vos poésies ?
Oui.
Ah oui, il y a des très très beaux livres qui illustrent les poésies d'Apollinaire, justement. C'est des calligrammes. Je te souhaite d'aimer la poésie et de découvrir tous ces beaux poèmes et ces belles illustrations.
Ben moi, j'aime bien dessiner, donc j'aime bien dessiner.
J'essaye, je gribouille un petit peu.
Alors, comme j'en fais pas, ben, j'ai jamais fait d'illustration. Il faudrait que je m'y mette, peut-être.
Alors, Cerise, tu voulais nous parler de la poésie, je crois.
La poésie, c'est un texte qui a des strophes, des phrases construites en plusieurs syllabes. Aussi, on a des rimes, des mots qui se finissent avec la même syllabe dans plusieurs strophes. Un titre au début et le nom du poète à la fin. Petit chat. Mon petit chat s'appelle Coben. Nous n'avons jamais vu sa marraine. Il est trop mignon, il joue avec les pompons. Quel chat, il ne fait que des bêtises. Si c'est le cas, nous aurons de mauvaises surprises. Cerise Leroux-Villois. Quand as-tu commencé ? À la lecture du cahier du poème de ma mère, je m'en suis inspirée pour écrire mes propres poèmes. J'en ai écrit 3 toute seule.
On fait une pause musicale, Pirates des Caraïbes.
Thank you.
êtes toujours sur PFM 99.9 dans Radio Récré. On vous propose maintenant d'écouter la deuxième partie de notre interview avec Anne Crahé.
Bonjour Anne Crahé, vous êtes illustratrice. Nous sommes Adèle, Elia, Alice, Hermione, Cerise, Romane et Gabrielle. Nous allons vous interviewer.
Quelle technique préférez-vous ? Laquelle utilisez-vous le plus ?
Alors, ce que j'utilise le plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est le collage. Là, pour l'instant, je suis en train de travailler une technique qui s'appelle la gouache acrylique. Et ça va peut-être devenir ma technique préférée. Parce que j'aime beaucoup le côté velouté et très mat des couleurs. Et puis aussi parce que je peux faire des transparences, ce qui est plus difficile en collage.
C'est quoi la peinture à œuf ?
Ah, ben la peinture à l'œuf, tu vois, vers 1400 ans, en 1400 en Italie, on a commencé à travailler la peinture. C'était un courant qui s'appelle la Renaissance. Et tous les grands tableaux, je pense que vous connaissez tous la Joconde. Vous avez déjà entendu parler. C'est des grands tableaux très connus qu'on va trouver au Louvre. Ils sont faits avec des pigments. Alors des pigments, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être des plantes broyées, des pierres. On pourrait le faire avec des épices même. On mélange cette poudre avec du jaune d'œuf. On ajoute un peu de vinaigre pour conserver, parce que sinon l'œuf pourrit et alors c'est horrible l'odeur. Mais quand on met un peu de vinaigre, ça tient très longtemps. Et avec ça, on fait une espèce de petite compote et on peut peindre sur le papier. Et donc voilà, ça c'est la peinture à l'œuf et c'est très très résistant puisque des tableaux de 1400-1500 sont toujours, on peut toujours les voir au musée.
Est-ce que vous avez une couleur préférée ? Laquelle utilisez-vous la plus ?
Non, je n'ai pas vraiment de couleur préférée parce que tu vois, une couleur toute seule, ça ne veut rien dire. Tu vois, là derrière nous, on a un violet à côté du vert et c'est vraiment un rapport de deux couleurs qui va venir s'imprimer sur ta rétine. Mais si on remplaçait par exemple le mur violet par du rouge, on aurait presque mal aux yeux, le vert, il serait très différent. Donc, pour moi, des couleurs, c'est toujours un assemblage de couleurs. Ça n'existe pas tout seul, une couleur. Et alors, moi, souvent, mes étudiants, je leur demande si, quand on éteint la lumière, est-ce que la couleur existe encore ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? À votre avis, si on se met dans le noir, est-ce qu'il y a encore de la couleur ?
Oui, mais on ne la voit pas.
Non, en fait, pour que la couleur existe... La couleur, c'est simplement la lumière qui pénètre et qui va se rebondir, si tu veux, sur une texture. Mais donc, si on éteint la lumière, il n'y a pas de couleur. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Utilisez-vous différentes techniques dans un même livre ?
En général, il y a quand même une technique prédominante. Par exemple, celle-ci dont on a parlé, tu vois, le papier découpé. Donc là, c'est papier-ciseaux. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver au collage, j'ai dû peindre tout un tas de papiers et collecter des papiers parfois qui sont recyclés. Donc c'est vrai que c'est jamais une seule technique. Comme par exemple, tu vois ici, c'est aussi du collage. Mais par exemple, la manche de la main de la couverture de l'album Mes petits doigts, c'est du tissu. Donc ça me demande aussi d'aller collecter des tissus. Donc il y a toujours une technique principale et je l'agrémente souvent d'un peu de crayon, d'un peu de peinture. Donc dans mon métier, on appelle ça une technique mixte. C'est quand on mélange plusieurs techniques pour faire une seule image.
Préférez-vous dessiner les décors ou les personnages ? Le premier ou le second plan ?
Souvent le premier plan, parce que c'est là qu'il se passe l'action et que je mets le plus mon attention. Donc c'est là que, tu vois, mon personnage, on doit comprendre son émotion, travailler son attitude. Donc en fait, c'est le plus important, c'est de mettre beaucoup d'énergie dans l'attitude du personnage et qu'il soit attachant. Mais vraiment, ce que moi j'aime beaucoup faire, c'est les plantes. Et parfois, il faut que je me force un peu parce que je pourrais dessiner des heures des plantes et oublier mon personnage. Mais on n'achète pas un livre sur des plantes. Hein. Quand tu lis un album pour enfants, toi, tu as envie que ça bouge, que ça court, que ce soit rigolo. Et souvent, les enfants, ils ne voient pas tout le travail que moi, je fais dans les végétaux. Mais c'est parce que je trouve ça tellement beau. La végétation, les feuilles, les nervures, ce qui se passe sous terre. Ça, c'est un peu quelque chose qui me fascine. Mais pour un livre, il vaut mieux très très bien s'occuper de ses personnages.
Ferrer, dessiner ou colorier?
Ben, tu vois, quand on est illustrateur ou illustratrice, souvent, nous, on ne colorie pas. C'est-à-dire qu'on fait le personnage. Et alors, ben, tu vois, moi, ici, c'est très peu colorié, puisque toutes mes feuilles, j'ai des grandes feuilles peintes de couleurs. Donc, moi, je colorie presque jamais. Donc, plutôt, alors, je vais plutôt dire, je dessine, et, mais mes couleurs, elles sont déjà là. J'ai peint sans réfléchir, tu vois, des grandes, grandes feuilles jaune, orange, bleu, magenta. Et puis, je découpe dedans.
Avez-vous déjà fait autre chose que le dessin ?
Alors, moi, mon tout premier travail, c'était sorcière. Donc, quand je suis sortie de l'école, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas trouvé d'éditeur tout de suite. Et donc, pendant presque une année, je travaillais pour une société d'événements où je rencontrais des équipes d'entreprises qui venaient se perdre, faire des activités dans les Ardennes. Et je passais mes journées dans une cabane en bois perdue au milieu de la forêt, où les équipes étaient censées passer, et je devais faire un sketch où je jouais à la sorcière. Alors, je me collais un faux nez en latex, je devais me maquiller, et l'hiver, c'était horrible parce qu'il faisait super froid. Donc, j'ai été sorcière, je trouve que sur mon curriculum vitae, c'est pas mal.
Combien de temps mettez-vous pour faire un livre ?
Tout à l'heure, je t'ai expliqué que moi, je suis professeure, et puis je donne des ateliers aux enfants, donc je ne fais pas ça tout le temps. Mais l'été, pour moi, c'est les grandes vacances, donc j'ai 2 mois d'été sans autre travail. Donc là, je dessine beaucoup, et en général, il me faut un été pour faire un livre. Donc je dirais à peu près 2 mois. Mais j'ai des collègues qui travaillent beaucoup plus vite que moi.
Travaillez-vous sur un nouveau livre actuellement ?
Ah oui, je travaille sur un livre qui sortira en octobre 2025, qui va s'appeler « Chacun son côté, chacun son terrier ». Et c'est l'histoire d'un hérisson et d'un petit loir qui vivent de part et d'autre d'une flaque. Et ils se détestent, ils se disputent tout le temps. Et Monsieur Hérisson a tout le temps peur que le loir lui mange toutes les framboises. Et donc ils se détestent. C'est tiré d'un conte qui s'appelle « Le bâtisseur de pont ». Parce que Monsieur Hérisson va demander au bousier de construire un mur parce qu'il ne veut plus jamais, jamais voir ce fichu loir qui lui casse la tête et les oreilles. Et donc, quand ils commandent ce mur au bousier, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bousier ?
C'est un insecte qui travaille avec des cacas d'animaux.
Exactement. Et qui pousse des petites boules de caca devant lui. Parce que moi, je trouve qu'une dispute, c'est un peu une boule de caca. Et donc, il va demander à ce bousier de construire un mur au milieu de la flaque pour ne plus jamais voir le Loir. L'hiver arrive, ils vont hiberner et Monsieur Bousier se met au travail pendant tout l'hiver. Et quand ils vont se réveiller, à la place d'avoir coupé la flaque en deux pour faire un mur, il a construit dans l'autre sens et ça fait un pont. Et donc c'est le pont de la réconciliation. Et peut-être que vous avez entendu un peu aux informations, pour l'instant il y a beaucoup de conflits partout. Mais ça me semblait intéressant de faire un livre sur comment se réconcilier. Voilà. Donc ça, ce sera pour cet automne. Et là, quand je vais rentrer d'Arras dans ma maison, je retourne vite à mes pinceaux pour terminer le livre. Je dois donner tous mes dessins pour le mois de juin. Alors moi, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi être illustrateur ou illustratrice, c'est le plus beau métier du monde ? Pas d'idée ? Alors moi, je vais vous donner ma réponse. C'est que, à ma connaissance, c'est le seul métier que l'on peut pratiquer en pyjama. Et ça, c'est quand même un argument de taille. Aujourd'hui, je me suis habillée, vous avez beaucoup de chance.
Merci Anne Crahé d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Au revoir.
À très bientôt.
Adèle, tu as beaucoup hésité entre une chronique sur la clavité, sur les mangas, sur les bananes, mais finalement, tu as décidé de parler des rats.
Le rat. Le rat, un rongeur omnivore, est un nuisible. Il peut creuser des trous dans des endroits sales, notamment avec du parquet ou dans les greniers, pour voler de la nourriture. L'espérance de vie d'un rat est très courte. Il vit entre 2 et 3 ans. Ces rongeurs sont très propres, contrairement à ce que l'on dit. Ils font leur toilette plusieurs fois par jour, comme les chats. Les rats peuvent transmettre des maladies en mordant, par leurs excréments ou encore à cause de leur sang. Les moustiques les piquent, puis nous piquent. Avant, on pensait que comme les rats transmettaient des maladies, ils étaient à l'origine du développement de la peste, au Moyen Âge. Mais selon de nouvelles recherches, il paraîtrait que les puces et les poux soient de grands acteurs de la propagation. Les rats se reproduisent vite, ils ont plusieurs petits à la fois. Les principaux prédateurs du rat sont l'homme, le chat et le chien. Les rats par rapport à Arras. Avant, Arras se prononçait Ara. Quand les villes avaient des sceaux, sur celui d'Arras, il y avait un rat. Maintenant, le lion est le symbole d'Arras. Il y avait même une devise qui est d'ailleurs écrite sur les bancs place du théâtre. Quand les Espagnols avaient conquis Arras, ils ont dit « Quand les Français prendront Arras, les souris mangeront les chats. Quand les Français ont repris Arras, ils ont changé une lettre. Quand les Français rendront Arras, les souris mangeront les chats. » Il existait même des fêtes des rats à Arras. Aujourd'hui encore, il y a des rats sculptés sur le toit et à l'intérieur de l'hôtel de ville. Il y a des restaurants-bars comme le Petit Rapporteur ou le Rat Perché. Des chocolats en forme de rat existent.
On écoute maintenant mon micro-trottoir sur les rats.
Est-ce que vous avez déjà vu des rats? Si oui, où?
J'en vois tous les jours dans mon jardin.
Alors moi, j'ai déjà vu des rats, mais c'était plutôt en animalerie.
Je crois que j'en ai déjà vu dans la campagne une fois, par hasard.
Ah oui, oui, j'ai déjà vu des rats et ça me fait pas peur. C'est juste qu'on n'aime pas trop parce qu'on dit que c'est pas propre qu'il y ait des rats.
Alors oui, j'ai déjà vu des rats à la campagne, chez mes parents, parce qu'ils ont des poules. Et du coup, les rats, ils viennent essayer de manger la nourriture des poules.
Oui, j'ai déjà vu des rats dans la rue. La plupart du temps, j'en ai déjà vu dans la rue.
Dans le jardin.
Oui, c'est vrai. J'en ai déjà vu un dans le jardin, tout à fait. Je ne me rappelais pas, mais oui, dans le jardin, j'en ai déjà croisé un.
Des rats, moi, j'ai déjà vu... Des rats du côté de la Scarpe, parce que du côté de la Scarpe, il y a des rats gondins, ça s'appelle, je crois. Hein. Et disons que j'en ai vu, mais qui se baladaient, oui.
Oui, j'ai déjà vu des rats dans la ville d'Arras et dans mon jardin.
Est-ce que vous préférez que le symbole d'Arras soit un rat ou un lion? Pourquoi?
Je trouve que le lion est beaucoup plus classe, donc je préfère le lion.
Moi, je préfère le lion parce que c'est plus majestueux. Mais le rat, j'ai l'impression que c'est plus présent que le lion.
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Mais le rat, il est moins connu. Enfin, je trouve que le lion parle plus aux gens. Après, le rat, c'est quand même emblématique du nom. Donc, autant garder les deux, je pense.
Moi, je verrais plutôt le lion par rapport à sa force. Je pense que par rapport à la guerre qu'il y a eu à Arras, il a eu... Il fallait montrer de la force pour protéger notre ville. Je pense à ça. Le rat, moins. C'est voilà, moins. C'est ce que je pense.
À Lyon, parce que c'est plus intéressant, on dirait.
Tu préfères l'animal?
Oui, c'est ça.
Je préfère nettement que ce soit un lion, parce que c'est beaucoup plus beau sur le haut du beffroi. On ne va pas mettre un rat en haut du beffroi. Les rats, je les ai vus au bord du canal, au bord des rivières. Ils ont le droit de vivre, hein. Ils ont sûrement une utilité dans l'équilibre de la nature. Mais je sais aussi qu'ils sont très extraordinaires. Par exemple, ils vivent en famille, en tribu. Et ils sont même capables de ronger un tuyau en fer pour trouver de l'eau dedans.
Bon, je pense que le lion, c'est un petit peu mieux, c'est plus majestueux. Ça, je pense qu'à une époque, ça a dû représenter un petit peu la puissance de la ville. C'est un côté très solaire, le lion aussi. Un rat, en général, les rats, c'est dans les égouts, donc c'est un peu plus sombre, ça manigance des choses. On se dit que c'est peut-être pas terrible comme image.
Voilà, elle est compliquée cette question. Peut-être un rat, parce que je sais que c'est en lien avec l'histoire de la ville. Donc je pense que le rat symbolise la ville d'Arras. Je ne connais pas tout l'historique et tout le contexte, mais je sais qu'il y a une histoire particulière entre la ville et le rat.
Disons que normalement, je sais que comme il y a un café qui s'appelle le Rat Perché, je sais qu'il y a une histoire sur les rats d'Arras, justement. Et suite à ça, je ne connais pas bien l'histoire, alors je ne m'en rappelle même plus. partir de là, disons qu'il faut aller rechercher des archives à la mairie d'Ars pour pouvoir connaître vraiment l'histoire.
Le lion, c'est plus sympa, c'est plus féroce, c'est puissant. Le rat, bon, c'est pas très propre. Hein.
Et quand on dit rat, qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi vous pensez? Un sentiment, une anecdote, un film ou encore un livre?
Je pense surtout à mon compost qui, malgré toutes les sécurités que j'ai fait, est rempli de rats. Donc je pense aussi à mes chats qui veillent tous les soirs à côté du compost.
Du dégoût, parce que c'est moche.
Moi, ça me fait penser aux rats de laboratoire et aux rats domestiques qui font des petites énigmes et qui arrivent à trouver leur chemin dans les labyrinthes. Voilà.
Pour le rat, je pense au dessin animé Ratatouille. C'était trop mignon ce film, je l'ai vu. Et en plus, pour, on va dire que le rat peut servir aussi pour les laboratoires, pour la médecine. Voilà, faire des tests pour la médecine.
Un sentiment
sous la terre.
Ça évoque les légendes du Moyen-Âge, comme le joueur de flûte de Hamel, qui a attiré les rats derrière lui. Ça évoque évidemment, c'est pour ça qu'on en a tellement peur, les épidémies de peste, où c'était pas eux, mais c'était les puces qui étaient sur eux, qui ont contaminé les gens partout. Partout où il y avait des rats, il y avait les puces des rats.
Ils ont des mauvaises réputations, hein, les rats quand même. Moi, je pense tout de suite à la peste. Voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont des rats de compagnie et que ça peut être très rigolo et très, comment dire, très attaché à l'homme, très cool, ouais.
Peut-être une petite anecdote, parce que quand on avait emménagé dans notre nouvelle maison à la campagne, les premiers jours, quand on a commencé à passer du temps dans le jardin, on a vu qu'on avait un petit compagnon et qu'on avait un petit rat des champs qui avait l'habitude de se balader à proximité du jardin. Et donc voilà, ça a été notre petit compagnon quand on est arrivé dans notre nouvelle maison. Alors c'est plutôt une petite anecdote liée à notre déménagement dans notre maison actuelle. Donc voilà, ça me rappelle une petite anecdote plutôt.
Une anecdote pour la ville d'Arras. Parce que dans le temps, il y avait quelque chose qui se passait sur Arras et c'était pour la fête des rats d'Arras.
Quelque chose de pas propre, sale. Qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Alors, ça peut m'évoquer les histoires de Ratus. C'est des histoires d'enfants avec un rat vert. Et sinon, le rat des tortues ninja.
Radio Récré, c'est terminé.
J'espère que vous avez passé un bon moment.
Et à très bientôt sur PFM 99.9.
Au revoir!
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure, all the good love when we're all alone, keep it up, girl.
of the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.
Assise au soleil devant sa maison, Charlotte jouait tranquillement avec sa poupée. Quand elle vit un grand chien s'approcher d'elle, un chien étrange, au pelage bleu, aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses.
Pauvre chien bleu, on dirait que tu es abandonné.
Elle partagea avec lui son pain au chocolat. Le soir même, dans sa petite chambre, Charlotte entendit un grattement à la fenêtre. Le chien bleu était là. Elle sauta dans le jardin pour le rejoindre. Chien bleu revint tous les soirs. Charlotte bavardait avec lui en le caressant tendrement. Au bout d'un petit moment, il frottait son nez contre sa joue pour lui dire au revoir et se sauver. Charlotte s'endormait en pensant à lui. Mais un soir, pendant le bain, sa maman lui dit
« Je ne veux pas que tu joues avec ce chien. On ne sait pas d'où il vient, il est peut-être méchant ou malade. De toute façon, je ne veux pas de chien à la maison. »
« Mais maman, il n'est pas malade ni méchant. Je reste juste un tout petit peu avec lui et après je me couche. Je l'aime tellement. On ne peut pas le garder ?»«
Pas question. J'ai dit non, c'est non. »
Quand Chien Bleu vint à la fenêtre, selon son habitude, Charlotte était si triste qu'elle pouvait à peine parler.
Je n'ai plus le droit de te voir. Maman ne veut pas.
Chien Bleu la regarda longuement. Puis il fit demi-tour et disparut dans la nuit. La maman de Charlotte, voyant petite fille si triste, voulut la distraire de son chagrin. Par une belle journée, elle l'emmena en pique-nique dans les bois. Après le déjeuner, elle lui tendit un petit panier et lui dit
« Regarde bien le long des chemins et sous les buissons, je suis sûre que tu trouveras des fraises des bois. Mais ne t'éloigne pas !»
Charlotte s'enfonça dans le bois. Comme elle trouvait de plus en plus de fraises, sans s'en rendre compte, elle s'éloigna de plus en plus de l'endroit où ses parents pique-niquaient. Quand le panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas. Mais elle se trompa de chemin et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces.
« Papa! Maman! Au secours !»
Personne ne répondit. Charlotte se rendit compte qu'elle s'était perdue. Elle entendit de drôles de craquements tout près d'elle.
Elle se mit à courir, mais les bruits se rapprochèrent. Il faisait sombre. Elle ne voyait pas les pierres sur le chemin et buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long. Terrifiée, elle vit une immense silhouette se précipiter sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri de surprise. C'était bien un chien bleu qu'il avait suivi à la trace et retrouvé dans la forêt. Elle l'enlaça de toutes ses forces.
Tu vas me ramener à la maison ?
Il faut s'abriter pour la nuit,
répondit Chien Bleu.
Il ne faut pas réveiller l'esprit des bois. Demain, nous rentrerons.
Il trouva une caverne dans les rochers, ramassa des brindilles. Puis, lorsqu'il souffla dessus, les flammes s'élevèrent, réchauffant la petite fille.
Dors maintenant, je veille sur toi.
Au cœur de la forêt profonde, une odeur inconnue réveilla l'esprit des bois.
Qui est entré dans ma forêt sans ma permission ?
Gronda-t-il. Transformé en panthère noire, il se glissa silencieusement à travers les herbes. À la lueur du feu, il aperçut Chien Bleu et la petite fille endormie à ses côtés.
J'en ferai bien mon dîner,
se dit-il en avançant dans la lumière. Les babines repoussées, Chien Bleu se leva en grondant sur...
« Misérable chien !»
s'écria la panthère, furieuse.
« Tu crois que tu m'empêcheras de me saisir de mon bien ? Tout ce qui est dans cette forêt m'appartient !»
Chien Bleu bondit, tout croc dehors, griffe en avant. Toute la nuit, ils luttèrent, essayant de se déchirer de leurs énormes crocs, monstres écumants de fureur. La panthère était terriblement forte. Chien Bleu se battait vaillamment. Mais ses forces faiblissaient. Au petit matin, pourtant, Chien Bleu sentit la panthère reculer sous ses coups, éviter la bataille. Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante supplia.
« Tu as gagné, laisse-moi partir. »
C'était le jour qui faisait peur à la panthère. Si le soleil se montrait, elle disparaîtrait en fumée, car l'esprit des bois n'a le droit d'apparaître que la nuit. Chien Bleu la laissa s'enfuir. Il n'avait plus rien à craindre à présent. Lorsque Charlotte se réveilla, Chien Bleu dormait épuisé.
« Et debout, gros paresseux !»
lui dit-elle joyeusement.
« Il faut rentrer !»«
Monte sur mon dos !»
dit le Chien Bleu en s'étirant et en bâillant.
« Nous irons plus vite !»
Chien Bleu galopa à travers champs. Il allait si vite que Charlotte avait l'impression de voler.
Thank you.
Arrivés à la maison, ils entendirent pleurer les parents de Charlotte, désespérés d'avoir perdu leur petite fille chérie. Ils l'avaient cherchée tout le jour, toute la nuit, sans pouvoir la trouver.
« Je suis là! Chien bleu m'a sauvée !»
Plus tard, la maman de Charlotte s'écria en tenant bien fort sa petite fille dans ses bras.
« Ah, Charlotte, dire que je ne voulais pas que tu gardes ce chien. Comment va-t-on l'appeler ?»«
Il s'appelle Chien bleu. »
Quand elle alla se coucher, Charlotte demanda à Chien bleu.
« Veux-tu rester avec moi pour toujours ?»
Chien bleu s'étendit auprès du lit et posa sa tête près de la tête de la petite fille.
« Dors, petite fille, je resterai toujours auprès de toi. »